Allô?
Allô Michel?
Oui, bonjour.
Alors, bonjour, c'est David Melmans, éditeur aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et à la faveur du confinement, j'appelle les auteurs et les autrices des Forges pour discuter avec eux de leur lecture. Alors, pas nécessairement leur lecture de confinement, hein, aussi parfois leur lecture passée, parce que souvent, les bons auteurs sont aussi des bons lecteurs, des bonnes lectrices qui donnent envie de lire. Tout va bien, Michel?
Tout va bien.
Alors, Michel, tu as publié quatre romans aux éditions
Ouais.
Aux Forges de Vulcain, dans des genres variés, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est un sens. Tu es peut-être parmi les autrices des Forges, celle qui a l'écriture la plus précise, avec une imagination, comment dire, une capacité de décrire le monde physique que je trouve très impressionnante. Et est-ce que ça te vient d'une lecture en particulier ou c'est un pli naturel de ton esprit?
Je ne
Je
sais
précise
pas.
que je ne prépare jamais ces entretiens,
Oui.
donc comme ça surprend parfois les interlocuteurs.
C'est vrai que parmi les lectures que j'ai sélectionnées, alors on va parler pas mal de littérature japonaise. Je t'en avais déjà
Oui.
parlé, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est assez précis, c'est assez poétique et c'est en même temps très beau et ouais, très précis dans les descriptions. Alors ça me vient peut-être de ça, mais enfin, j'ai aimé cette littérature japonaise dans sa simplicité. Peut-être parce que ça faisait référence à ce que j'avais envie de lire aussi,
Oui.
je ne sais pas. Mais oui,
Eh ben,
voilà.
ah mais non, mais alors commençons. Dis-moi, quelle est si tu avais une lecture de littérature japonaise à nous recommander, dis-nous.
Ben, c'est ce que j'ai lu là au début du confinement. Alors c'était des livres que j'avais achetés avant en prévision d'un futur roman, enfin d'un roman que je suis en train d'écrire. Et alors c'était des livres que j'avais lus il y a déjà longtemps, mais qui m'étaient restés en mémoire. Alors moi en fait, j'achète pas énormément de livres, mais je vais beaucoup dans les médiathèques. Je suis vraiment, j'ai fait ma culture en fait. Donc comme je te l'ai déjà dit, je suis pas très pointue en littérature, je suis assez éclectique. J'ai pas fait des études littéraires, donc j'ai pas forcément eu des gens qui m'ont conseillé, mais voilà, les rayons des médiathèques ou des bibliothèques à l'époque, je les ai fréquentés, j'étais adolescente, je prenais 5-6 bouquins, je lisais pas forcément tout, mais bon voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc je les ai découverts en médiathèque et puis je les ai achetés après. Alors donc le livre que j'ai lu au début du confinement et qui est vraiment qui représente la littérature japonaise, mais un petit peu historique, mais en même temps très simple, très dur. Alors c'est quelque chose qui est assez connu, hein. C'est Naufrage de Akira. Alors c'est bien d'avoir une interview comme ça parce que moi j'ai les noms, je peux pas dire j'ai oublié, surtout que c'est des noms qui sont pas très simples. Donc c'est Akira Yoshimura. Donc
Alors.
ça s'appelle Naufrage. Alors j'ai regardé, en fait c'est un monsieur qui est mort en 2006. Il est né en 1927, il est mort en 2006. Alors je ne sais pas quand est-ce que ça se passe, mais c'est vraiment dans un Japon, ça pourrait être au Moyen-Âge, comme ça pourrait être au siècle dernier. Donc c'est un village très très pauvre, sur une côte, tout à fait désolée. Alors quand j'ai lu les premières pages, j'étais vraiment fascinée par la description parce que j'avais l'impression d'y être justement, de sentir ce paysage dur, puis en même temps très beau, avec les couleurs des arbres. Donc c'est des villageois, donc qui vivent de très peu de choses. En fait, ils font même pas de culture, mais ils vivent de la mer. Donc en fait, au fil des saisons, on connaît toutes les pêches, hein, que ce soit le poulpe, les différents poissons. Enfin bon, je me souviens plus de tous les poissons, mais c'est vraiment bien décrit. Et en fait, ils sont tellement pauvres qu'ils sont obligés de se vendre. Il y a les gens les plus costauds, que ce soit les hommes ou les femmes, qui se vendent. Enfin, c'est des esclaves, quoi. Ils se vendent comme esclaves jusqu'à 6 ans pour avoir un petit peu d'argent. Et puis, comme ça leur permet d'acheter des céréales, quoi. Ça leur permet de survivre. Et tous les hivers, enfin au début de l'automne, quand le temps commence à être difficile, quand il y a des tempêtes, en fait c'est pour ça que ça s'appelle naufrage, ils ont une coutume, ils font cuire le sel. En fait, cuire le sel, c'est qu'ils font brûler des feux sur la plage la nuit, Alors bon, soi-disant pour récupérer le sel qui est dans l'eau de mer, en le faisant bouillir, l'eau de mer va s'évaporer, donc on va récupérer le sel, mais ils pourraient très bien le faire de jour. Hein. Et
Ouais.
donc ils font ça de nuit, bah, pour faire naufrager des bateaux, quoi, des bateaux qui passent au large. Et
D'accord.
bon, il y a très peu de naufrages, hein, mais bon, tous les 10 ans à peu près, il y a un naufrage. Et donc on explique ce qui se passe, parce que bon, bah, quand il y a un naufrage, c'est pas si simple que ça. Il faut pas que ce soit des bateaux du gouvernement, parce que s'il y a des marins survivants, ils sont obligés de les tuer. Et puis si jamais on découvre qu'ils font ça, bah, en fait tout le village sera exécuté, quoi. Donc c'est très très dur, c'est pas très gai, ça se finit pas forcément très bien. Il y a aussi une histoire d'épidémie là-dedans. Parce qu'on se rend compte que, bah oui, mais on se rend compte que des villages isolés comme ça, des îles isolées comme ça, les épidémies, c'était gravissime, quoi. Et que, bon, voilà, c'est quelque chose qui a toujours été une épée de Damoclès, quoi, sur la vie de ces gens-là. Donc c'est un très très beau bouquin. Je l'avais lu il y a longtemps et vraiment, ça fait partie des livres qui m'avaient vraiment marqué.
Mais oui, non, c'est fascinant parce que, en fait, c'est vrai que dans le folklore breton ou le folklore d'Amérique du Nord, cette tradition d'un village qui tire une partie de sa subsistance du naufrage de bateaux de pêcheurs ou de bateaux même de, comment dire, de fret, c'est quelque chose d'assez connu, hein. Il y
C'est
a
vrai, c'est
beaucoup
vrai.
de légendes bretonnes, de contes
Oui,
bretons qui
c'est vrai.
reposent sur ça, hein. C'était
Oui, mais après, je sais pas si en Bretagne, ils allaient jusqu'à les faire naufrager, quoi.
Non, non,
Bon,
souvent,
après,
enfin, moi,
voilà.
les légendes que je connais, c'est pas le village complet, c'est une personne dans le village qui attire la malédiction sur tout le village, mais qui est en fait, lui, le seul coupable de la malédiction. Mais alors, et en plus, je vois que un de ses romans avait été, le roman Liberté conditionnelle avait été adapté par le cinéaste Shuai Imamura, sous le titre de L'Anguille, hein, qu'avait été primé à Cannes dans les années 90. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué. Et je ne savais pas du tout que c'était initialement un roman. Donc je découvre un romancier. Et en passant, c'est vrai que je vois que ses œuvres sont publiées dans la collection Lettres japonaises de Actes Sud et reprises en Babel. Et c'est vrai
Oui,
que
c'est
c'est
ça, je l'ai acheté
une.
en poche.
C'est ça,
Je l'ai
mais c'est
acheté
une
en
très
poche.
très belle collection où effectivement c'est une des deux grandes collections de littérature japonaise comment dire, en librairie française.
Et puis d'ailleurs, bon, c'est japonais, donc effectivement, je l'ai pas lu dans le texte, mais en fait, je fais attention à la traductrice.
Oui.
Et Rose McKinnon Fayolle, c'est vrai que c'est une très très bonne traduction. Enfin, je trouve que c'est très beau que sa façon de traduire, parce que j'ai d'autres romans, d'autres romancières traduits par elle aussi. Donc,
D'accord.
c'est voilà.
Eh ben,
Donc.
écoute, merci. Alors, je note. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as sélectionné encore?
Alors celui-ci, je l'ai commencé. Alors c'est pareil, c'était un livre que j'avais lu il y a longtemps, qui m'avait marqué. Alors c'est taïwanais. Alors j'ai
Ouais.
eu du mal à le retrouver parce que je me souvenais juste de quelques images. Alors c'est L'homme aux yeux à facettes de Yu Ming Yi. Alors en fait, c'est une histoire croisée d'un jeune homme qui est pareil sur une île très pauvre et comme c'est le cadet d'une famille, il n'a pas le droit de fonder sa propre famille, d'avoir des enfants. Je suppose que c'est une histoire de surpopulation et il est obligé de prendre la mer sur un bateau où on sait que de toute façon il va pas survivre parce qu'il a juste 15 jours de vivre et d'eau. Et puis d'une femme qui est très seule parce que son mari et son fils sont morts dans un accident de montagne. Et en fait, le jeune homme va se retrouver sauvé par un vortex de déchets, de plastique. Et donc il va se retrouver sur cette île. Alors, j'en ai lu que la moitié, mais je l'avais déjà lu, donc je sais que ça m'avait plu, mais voilà, j'en suis là, quoi. Donc il va se retrouver sur ce vortex de déchets de plastique à retrouver la femme qui est elle-même sur sa grande île, sur Taïwan, et tous les deux vont se rencontrer, vont se découvrir. Voilà, pour l'instant, j'en sais pas plus.
Il y a une dimension
Ouais.
fantastique dans ce récit?
Non, c'est écologique, mais c'est pas fantastique. Non, 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 ça
D'accord.
reste dans le réel. Alors, il y a beaucoup de tremblements de terre, la nature est très présente. C'est peut-être écrit de façon beaucoup moins poétique que Naufrage. C'est un petit peu plus terre à terre dans la façon dont c'est écrit. Mais non, c'est pas fantastique. Non,
Alors, je
non.
vois que c'est un romancier plutôt jeune. Il est né en
Alors, je sais pas si.
71. Hein,
Ouais.
et il est. Alors, c'est la Cosmopolite chez Stock qui, effectivement. Alors, moi, j'ai des souvenirs de quelques auteurs japonais. Comment c'est l'auteur de L'Homme-Boîte, notamment. J'ai oublié son nom.
Je connais
Mais
pas.
c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas regardé le catalogue de la Cosmopolite en japonais. Et
Mais
par
il
contre,
est.
je note que c'est traduit par Gwenaël Graphic, qui est
Ouais,
effectivement un
ouais.
traducteur du chinois très, très,
D'accord.
très, très actif. Hein, donc j'ai lu pas mal de ses textes. Notamment, c'est un traducteur de science-fiction, je crois. Et c'est lui qui a traduit Le problème à trois corps, qui est
D'accord.
le grand chef-d'œuvre contemporain de la science-fiction chinoise. Enfin, chinoise
D'accord.
continentale cette fois-ci, pas taïwanaise. D'ailleurs, il ne faut pas dire que la Chine, c'est Taïwan. Enfin, que Taïwan, c'est la Chine,
Bon.
voilà, de Taïwan, voilà.
Et donc, mais ce livre, il est assez ancien. Enfin, je crois qu'il doit dater de 2012. Enfin, j'ai pas exactement la date, mais bon, je l'avais lu et je l'avais gardé en mémoire. Et voilà, donc j'avais envie de le relire. Parmi ce que je suis en train de lire actuellement, enfin ce que j'ai lu au début du confinement, alors ça n'a rien à voir, c'est une certaine Marielle qui me l'a conseillé, dont
Oui.
on en avait parlé au fameux repas des forges. J'ai
Ouais.
l'impression que c'était il y a des décennies quand
Ah,
on
le
pouvait
monde a tellement changé
sortir.
depuis.
C'est ça. Et donc c'est un livre de science-fiction que j'avais jamais lu. En fait, je connais pas beaucoup la science-fiction. Et c'est des fleurs pour Algernon.
Ah oui, qu'elle
Voilà.
était adaptée au cinéma, surtout dans les années
Voilà.
80.
Ouais. Donc elle en avait parlé au repas. Puis je me suis dit, tiens, ça a l'air bien. Donc je l'avais commandé juste avant et je l'ai lu. Donc effectivement, bon, donc ça n'a rien à voir avec les livres précédents. C'est alors effectivement c'est de la science en fiction. Donc c'est de la science-fiction. Donc si on reprend un petit peu l'histoire, c'est un attardé mental qui va subir des opérations. Alors, on n'en a pas trop le détail, et puis qui va devenir donc très intelligent. En même temps, il va apprendre des choses, il va avoir une institutrice rien que pour lui, puis après il va apprendre de lui-même tout un tas de langues étrangères. Enfin, il va devenir beaucoup plus intelligent que, bah, que les professeurs même qui l'ont soigné. Et il y a une souris qui a subi la même opération que lui, mais avant, quoi, pour comme test. Et donc on va se rendre compte, donc sur le plateau, quand il est très intelligent, là, qu'il n'est pas forcément très heureux, parce qu'il va se rendre compte que les gens, comment on le traitait quand il était un peu simple d'esprit. Et puis à un moment donné, la souris va décliner, elle va devenir agressive, elle va s'énerver, et puis ben, on va se douter que lui aussi va subir le même chemin, quoi.
Ah mais
Donc
ça, j'ai...
c'est assez classique. C'est vrai que ça a vieilli. Alors ça date de quand ce livre?
Alors, initialement, c'est une nouvelle qui date de la fin des années 50 et ça a été réécrit sous forme d'un roman par l'auteur en 66.
D'accord,
Ouais.
ok. Donc c'est vrai que c'est un petit peu daté parce qu'on a vu beaucoup de choses depuis, quoi, qui se sont
Ouais.
inspirées un petit peu des mêmes choses. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était.
Oui, moi, j'ai d'abord vu le film il y a longtemps et j'ai lu le livre il y a longtemps. C'est vrai que c'est théoriquement de la science-fiction, mais c'est très accessible par un grand public. Et en fait, c'est très clair que les ressorts ne sont pas vraiment la science, c'est des ressorts humains et sociaux dans le texte. Mais ça reprend en fait des lieu commun au sens positif de la science-fiction, c'est-à-dire l'homme qui se retrouve détaché du groupe et qui est projeté dans une expérience qui va faire saillir en fait les dysfonctionnements du groupe en fait. Et
Oui, tout à fait.
c'est vrai que le film, lui, pour le coup, avait vraiment pris le parti de s'éloigner beaucoup de la science-fiction et d'aller vers sans aller vers le mélodrame, d'aller vers quelque chose de très dramatique et qui a une sorte de patine de film international comme il y a pu y avoir dans les années 80, quoi.
Ouais, puis il faut se méfier parce qu'il y a une histoire d'amour là-dedans. Alors des fois dans les films américains,
Oui.
ça peut un petit peu trop tendre vers l'histoire d'amour qui va se finir
Ah
de
bah, de toute
façon
façon, il y a
malheureuse, quoi.
une vraie dimension de mélodrame parce que c'est aussi une forme de récit de la maladie, quoi. C'est vrai que c'est un récit assez poignant, très humain et complètement désespéré. Hein. C'est vrai que
Tout à
ça
fait.
se comme il
Pas
y a une
forcément parce que finalement, bon, à la fin,
Ah, attention,
ouais, je vais pas
tourne.
dire la fin, mais pourquoi pas? Il peut y avoir une. Bon, c'est pas si désespéré que ça, parce que bon, enfin bon, faut
Oui.
laisser, voilà,
Voilà.
au lecteur, voilà, l'idée de le découvrir.
Non, non, mais c'est vrai que c'est une sorte de petit classique, en fait, qui est vraiment très important pour les anglo-saxons. Je pense qu'il est moins connu en France, même s'il a eu sa grandeur de gloire, hein. Il a été très soutenu par, en fait, une personne importante pour l'édition de la science-fiction en France, qui est Jacques Sadoul, qui était éditeur, préfacier, et voilà, et pour qui c'était un texte important. Et à l'heure actuelle, et oui, et maintenant on le trouve chez... C'est Folio
Je l'ai
SF,
lu,
hein.
c'est, j'ai lu. Enfin, je l'ai acheté d'occasion, parce que moi, les vieux livres comme ça, j'aime bien les acheter d'occasion. C'est, j'ai lu.
Bon. Et
Oui.
waouh, wow, ouais, tu lis beaucoup, hein, en fait.
Bah non, ça dépend. Je lis par à-coups. Et dans les nouveautés, donc là
Ouais.
par contre, j'ai pris ça en bibliothèque et c'était, enfin en médiathèque, c'était une belle découverte. Donc c'est une nouveauté parce que c'est un livre qui est sorti très récemment. C'est Sandrine Collette et Toujours les forêts. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je sais pas
Alors,
si tu
le
connais.
nom me dit quelque chose, mais...
Donc c'est de la littérature, c'est très littéraire et en même temps ça parle de fin du monde de façon assez dure. Donc ça m'a surprise parce que quand j'ai lu le livre, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui a un début de vie très difficile, qui est élevé par une grand-mère dans un petit village, donc près des forêts. Donc là c'est pareil, hein, il y a de l'importance. Donc ces forêts ont énormément d'importance, les paysages, une sorte de solitude, on est assez proche de la terre. Et puis il va se retrouver à aller dans la grande ville pour faire ses études. Puis à un moment il va être avec quelques copains dans des souterrains. Et puis il va se produire une fin du monde. Donc tout va être brûlé, dévasté. Et donc il va prendre la route pour retrouver la vieille dame en fait, la grand-mère qu'il a élevée. Mais c'est très original dans sa façon d'être raconté, donc c'est très littéraire, on va dire très français en fait, mais
Ouais.
c'est amusant quoi de trouver cette façon et puis en même temps cette fin du monde, cette espèce de science-fiction quoi.
Ben c'est vrai que tu vois, ben encore ce matin, il y avait un libraire qui me posait une question là-dessus. C'est que Les Forges, je suis plutôt une maison d'édition littéraire, entre guillemets, mais j'espère au bon sens du terme. Mais c'est vrai qu'il y a des récits un peu fantastiques dans le catalogue. Mais en réfléchissant bien là-dessus, je me rends compte qu'au sein de la littérature fantastique, la littérature qu'on pourrait qualifier d'apocalyptique ou de post-apocalyptique, c'est ce qui est finalement le plus soluble en littérature générale. Mais c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, un des grands succès en librairie sur les 20 dernières années, ça a été The Road de Cormac McCarthy, et en fait, qui techniquement est un récit de science-fiction, parce que ça reprend plein de tropes de la science-fiction, mais qui a vraiment été présenté pour des lecteurs de littérature générale et a eu son succès chez les lecteurs et lectrices de littérature générale.
Tout à fait, ouais.
Et toi, d'ailleurs, un de tes romans est un roman post-apocalyptique. J'y
Oui,
repense
voilà.
beaucoup
Ah
depuis un mois.
oui.
Nous entrerons dans la lumière. Et alors, quand je t'entendais parler des deux premiers textes, le texte japonais et le texte taïwanais, je me rends compte effectivement qu'une autre caractéristique que tu as au sein du catalogue des Forges, c'est que tu es peut-être la romancière qui évoque le plus des problématiques sociales, mais sans. Pas du tout dans une forme de réalisme social au sens où ça serait, voilà, mais au sens de précision de la description sociale aussi, comme étant un paramètre important, alors que c'est vrai que peut-être qu'un des, entre guillemets, un des défauts de la littérature de l'imaginaire, c'est que souvent c'est une littérature qui va beaucoup s'affranchir du monde social réel. Et voilà, et je pense par exemple, je sais, là on doit parler de tes lectures et pas nécessairement de tes romans, mais juste pour ceux et celles qui nous écoutent, le roman Nous entrerons dans la lumière, ce qui est remarquable, c'est que c'est un roman d'effondrement de l'Occident suite à une canicule. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas présenté comme un film hollywoodien spectaculaire, mais vraiment il y a une très très grande précision de la description de comment tout l'édifice social s'effondre petit à petit. Et je veux pas faire du tout prophète de malheur en ces temps de confinement, mais c'est vrai de
Non,
voir que
non.
tout le monde est lié par une organisation collective où on est lié les uns aux autres, on l'oublie
Tout est
toujours,
interconnecté. Tout à fait.
mais dans cette chaîne, quand quelques maillons craquent, tout craque très très vite.
Ça va
fait,
vite,
hein.
Ouais, ça va vite, oui.
Et c'est ça qui était remarquable dans son roman. Alors c'est une apocalypse d'un autre genre que l'apocalypse par l'épidémie, qui est un sujet. Voilà, alors là on n'est pas du tout dans le monde réel. On n'est heureusement pas encore dans une apocalypse. Mais c'est vrai que l'apocalypse par épidémie, c'est un classique de la littérature de l'imaginaire et du cinéma de science-fiction. Mais finalement, le plus intéressant, c'est pas nécessairement comment la maladie, mais c'est vraiment comment le corps social réagit ou ne réagit pas ou n'arrive pas à faire face et comment on revient au choix des individus, c'est-à-dire que chacun est renvoyé à sa singularité et la nécessité de... Voilà. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je conseille la lecture de « Nous entrerons dans la lumière » de Michel Astrude. Voilà. Et sinon, quant à Sandrine Colette, je connaissais pas du tout. Voilà, et alors, je découvre avec une. Voilà. Non, parce que je connaissais le nom, mais c'est vrai que là, je suis en train de regarder fiche et c'est impressionnant.
Bah, les sur le prix littéraire. Oui, j'ai vu. J'ai réservé les autres livres. Ils sont dans ma médiathèque, mais ma médiathèque est fermée, donc je les lirai. Au déconfinement.
Non, je trouve ça assez remarquable parce qu'effectivement, moi, j'ai commencé à la lecture en médiathèque aussi quand j'étais enfant, mais vraiment petit. Et en fait, c'est simplement parce qu'au bout d'un moment de lire une série de bandes dessinées que j'avais commencé à la médiathèque, je me suis rendu compte qu'il manquait la suite. Et donc, c'est là où, juste en face de la médiathèque, il y avait une librairie. J'ai basculé de la médiathèque vers la librairie.
Il faut faire les deux.
Voilà, mais encore ce matin, moi, j'ai une bibliothécaire de la ville de Paris qui est très fan des Forges et qui soutient les livres des Forges, qui disait que c'est dans la chaîne du livre, la bibliothèque, la médiathèque est souvent oubliée. C'est-à-dire que nous, on communique pas en tant qu'éditeur directement vers les médiathèques. On ne sait pas comment leur faire parvenir l'information. Et donc, souvent, il y a des réseaux de médiathèques où les forges sont très présentes et des réseaux où on est quasiment absent. Et ça repose souvent sur la vertu de quelques individus. C'est-à-dire, parfois, tel bibliothécaire qui nous connaît ou parfois, il y a des gens qui sont des intervenants en bibliothèque. Par exemple, en Bretagne, on a un lecteur des forges qui s'appelle Guénaël Bontouillet, qui lui fait des tournées de médiathèques, les médiathèques le font venir pour qu'ils viennent présenter à la fois aux lecteurs, lectrices des livres, et lui il insère toujours des livres des forges dans ses sélections. Mais sinon c'est vrai que on est très présent. Alors c'est dans un secteur de médiathèque privée qui est Bibliothèque pour tous, c'est ça, qui est le grand réseau et qui a cette revue qui s'appelle les notes bibliographiques. Alors là, on est très bien suivi chez eux, mais c'est vrai que c'est un réseau privé pour le coup, alors qui finit par avoir une vocation de service public parce que il y a beaucoup d'endroits où c'est les seules médiathèques bibliothèques.
Parce que dans des villages, enfin comme le mien, enfin c'est déjà quand même une assez grande commune, mais la bibliothèque, c'est important, quoi. Il y a des gens qui vont régulièrement, c'est un peu la place du village, la bibliothèque.
Oui, et puis surtout, c'est ce qui est, d'un point de vue abstrait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans les bibliothèques ou les médiathèques, alors les forges ont beaucoup de chance parce que le réseau qui nous suit beaucoup, généralement, c'est la ville de Paris. C'est que en fait ils sont un peu détachés de l'actualité commerciale. Alors ils en sont pas complètement détachés parce qu'ils me disent que souvent les gens vont dans la médiathèque en disant on veut telle nouveauté et souvent ils me disent c'est risible parce que les gens réservent le livre mais après avant de réussir à l'avoir il va falloir un certain temps parce que chaque fois c'est parti pour 2-3 semaines où le livre n'est pas disponible. Mais par contre eux ça leur permet de mettre en avant certains livres qu'en étant détachés de commercial. Moi, j'ai été assez étonné parce qu'une fois, c'était la bibliothèque Václav Havel dans le nord du 18e à Paris, m'avait dit qu'ils avaient fait une table thématique sur le suicide. Et il me disait en librairie ça serait dur de faire ça parce que ça déprimerait les gens et voilà. Et il m'a dit une table de fiction comme ça n'avait jamais eu autant de succès avec un taux d'emprunt très très important. Et alors, tu avais prévu d'autres livres ou non ?
Oui, alors après, on va retomber donc, dans mes bouquins préférés. Donc, j'en avais déjà parlé, donc toujours dans les livres japonais, une auteure que j'avais découvert il y a une vingtaine d'années. Et c'est grâce à elle que je m'étais vraiment mise à écrire. Enfin bon, j'expliquerai après pourquoi. Donc, c'est Yoko Ogawa, je la cite en fait à chaque fois, avec notamment La piscine et La grossesse.
C'est fantastique. Enfin,
ah non, c'est pas c'est... fantastique, non.
Non, non, oui, fantastique non. Au sens que c'est de la très grande littérature, ça
ah,
je
oui,
veux dire.
Oui, oui,
c'est...
oui. Oui, 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 non, c'est pas du tout fantastique.
Et oui,
c'est...
pardon.
Alors, je regarde, c'est des romans, enfin c'est presque des nouvelles, hein, donc ça ouais. Fait, La piscine, ça fait 70 pages. Donc la piscine, alors c'est très simple et c'est pour ça en fait que j'écris avec le jeu, je suis au présent, voilà, j'essaye d'être vraiment très très simple pour être un peu au plus proche des émotions du héros ou de l'héroïne. Donc là, c'est une jeune fille dont les parents s'occupent d'un, enfin pas d'un asile, mais d'un... Comment j'arrive pas à trouver le terme d'un, enfin on recueille des enfants, voilà une pension, on recueille des enfants en fait abandonnés. Donc elle est amoureuse d'un garçon plus âgé qu'elle qui fait du plongeon, d'où le titre de la piscine. Et elle est pas très bien dans sa peau puisqu'elle est au sein d'enfants qui sont des orphelins, bon des enfants qui ont des difficultés. Et elle va un petit peu terroriser une petite fille un petit peu simple d'esprit aussi et plus moins âgée qu'elle. Voilà, donc c'est ça l'idée. Bon, après, c'est très précis, très poétique. C'est vraiment très beau. J'avais vraiment pris ça comme un coup de poignard, quoi. Et après la piscine, il y avait la grossesse aussi.
Alors la grossesse que moi j'ai lue et qui m'avait beaucoup marqué.
Ouais ouais, c'est bizarre hein aussi. Hein. Ouais. Donc c'est une dame, enfin une dame qui attend un bébé et puis elle apprend que les pamplemousses sont traitées avec un produit chimique. Si on en mange trop, ça peut abîmer, enfin avoir un problème pour les nourrissons, enfin le fœtus quoi. Et puis elle se commence à faire des kilos et des kilos de confiture de pamplemousses.
D'accord.
Voilà. Bon. Oui, oui. Donc c'est... Et bon, il y avait les abeilles aussi. En fait, moi, c'est ces trois bouquins-là que j'avais préférés. Maintenant, j'ai un peu lâché l'affaire avec elle. Elle fait des livres beaucoup plus gros. Des fois, c'est un petit peu répétitif. C'est un petit peu longuet, un petit peu répétitif. J'avais bien aimé Hôtel Iris aussi. Donc sur une histoire un peu trouble entre une jeune fille et un vieux professeur. Enfin, je l'ai lu il y a longtemps, donc je m'en souviens pas plus que ça. Et puis toujours aussi Yoko Ogawa, ce que je préfère, c'est Triste Revanche. C'est des nouvelles. Alors c'est des nouvelles aussi un petit peu bizarroïdes parce que je crois qu'il y a un jardinier qui fait pousser des carottes qui ressemblent à des mains. Enfin, on est toujours assez proche quand même du fantastique ou du rêve. Et en fait, toutes les nouvelles se répondent puisqu'il y a quelqu'un qui va apparaître dans une nouvelle, qui sera dans une autre. Il y a une espèce de passage de relais de nouvelle en nouvelle. Donc voilà ces livres de Yoko Ogawa.
Mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça me donne très envie de retrouver Yoko Ogawa. Et là, je regardais sa fiche. Et c'est vrai que ce qui est intriguant, c'est que c'est une lectrice de Murakami et de Tanizaki. Alors, Tanizaki, pour le coup, c'est un grand classique. Mais elle a fait comme pas mal d'écrivains américains. Elle a une. D'écrivains japonais. Elle a eu sa période Fitzgerald, Capote, Carver. Mm-hmm. Ce qui était le cas de Murakami aussi. Et voilà. Et c'est vrai que aussi on voit qu'elle a commencé par la nouvelle très très jeune et elle s'est tournée petit à petit vers la novella puis vers le roman long. Voilà. Et je note aussi que c'est une grande partie de son œuvre a été traduite par la traductrice dont
oui,
tu
c'est pour ça.
As raison,
oui,
mettait en avance
Rose Makino. Oui, Rose Makino Fayol. Bah oui, là, ça a beaucoup d'importance hein, parce que des fois, il y a des livres japonais ou chinois, on trouve ça lourd quand on les lit, mais c'est parce que c'est pas bien traduit, quoi. Enfin, je suppose, quoi. Et donc elle, c'est vraiment très très beau sa façon de traduire.
Non, mais c'est très très bien parce qu'effectivement, je me rends compte que au fort, j'essaye de mettre en avant les traducteurs traductrices, mais moi-même dans ma pratique de lecteur, sauf dans certains cas, c'est-à-dire par exemple Dostoïevski, il faut lire les traductions de Markovitch, et je suis les traductions de Markovitch, quelle que soit la langue, mais c'est vrai que j'ai tendance à pas être suffisamment attentif à ça pour d'autres domaines linguistiques que je maîtrise pas du tout. Enfin, je maîtrise pas le russe, hein, mais bon, voilà. Mais en tout cas, le japonais, c'est vrai que j'avais pas raisonner par traducteur ou traductrice, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait faire.
Voilà, alors après, dans les bouquins japonais, alors ce que j'aime bien chez les japonais, c'est qu'ils sont capables de tout, ils osent tout, donc il y a des choses très historiques, très... très triste. Donc Yokogawa, c'est très poétique. Et il y a un livre que j'avais lu il y a longtemps, alors c'est un gros pavé, c'est de Matsuhara Rieko, donc c'est une femme aussi, et ça s'appelle Pénis d'orteil. Alors bon, la traduction, donc le titre indique bien ce que c'est. Donc c'est une jeune femme qui se réveille avec un pénis à la place du gros orteil, et elle arrive à parler de ça, et elle aborde absolument tous les thèmes sur ce début, sur 600, presque 700 pages.
D'accord.
Et c'est, ça fait longtemps que j'ai pas lu, hein, mais c'est vachement bien. C'est très très curieux, hein, mais c'est ça que j'aime bien chez les Japonais, c'est ce que je te dis. Ils sont capables de tout. On va dans toutes les directions. Et ça se termine même à la fin, dans une sorte, on dit ça les freaks, en fait les monstres. Elle est dans un spectacle de monstres avec genre la femme à barbe et tout ça. Donc faut avoir du temps, hein, parce que c'est, je te dis, hein, presque 640 pages. Mais bon, c'est quelque chose d'assez rigolo. Et alors, c'est pas traduit par Rose McKinnon Fayol.
Parce que je vois que c'est chez Piquet, en fait.
Voilà.
Alors, ouais, Piquet, c'est le grand éditeur, traducteur, importateur des littératures d'Asie. Et c'est vrai que ça aurait été difficile de faire un entretien sur la littérature d'Asie en France sans parler des éditions Philippe Piquet et de leur travail.
Voilà.
Ça a l'air assez fascinant. Mais c'est vrai que c'est ça qui est... Moi aussi, c'est une question que je me pose ces jours-ci, c'est que dans les autres pays, le découpage entre la littérature générale et la littérature de genre est un peu différent. Et je sais que ce soit au Japon ou aux États-Unis, le léger fantastique, c'est-à-dire le réalisme magique ou ce type de choses, se retrouve assez aisément intégré en littérature générale, ce qui permet parfois de trouver des lecteurs, tout simplement, c'est-à-dire des gens qui, spontanément, n'auraient pas lu certains textes, en fait, les lisent et pour leur plus grand plaisir, découvrent quelque chose de merveilleux, hein.
Mais j'en ai lu d'autres comme ça. Après, j'ai pas tous les titres en mémoire, mais il y a beaucoup de romans comme ça de jeunes femmes, que ce soit chinoises ou japonaises, qui font des choses assez osées, quoi. Et c'est très original et ça reste quand même littéraire, quoi. C'est intéressant, quoi. Et dernier titre japonais, alors, qui n'a rien à voir. Donc c'est pareil, c'est un gros bouquin. Je l'avais lu il y a longtemps. Je me souviens plus très bien. Alors c'est plus du tout la même chose. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus triste, de beaucoup plus mesuré. C'est sur la disparition en fait d'un enfant. Et c'est Natsuo Kirino, et ça s'appelle Disparition. Et c'est aussi chez... je l'ai en livre de poche, là.
Alors, attends, je
donc c'est Natsuo Kirino, Disparition.
Ouais. C'est ça. Oh là, mais alors là, j'ai vraiment honte, parce que j'ai une culture littéraire japonaise contemporaine qui est très limitée. Non, c'est-à-dire, j'ai un peu lu les classiques du début 20e, mais c'est vrai que là, je vois, elle a gagné tous les grands prix japonais depuis les années 90.
Non, c'est un gros bouquin, il fait 500 pages. Je l'ai lu il y a longtemps, je me souviens plus très bien, mais c'est vraiment très beau. Bon, c'est assez triste, hein. C'est une famille qui est dans une maison près des bois, puis l'enfant disparaît. On ne le retrouve jamais. Et voilà, c'est toute l'évolution de la famille, mais c'est très beau, vraiment très, très beau.
Et ça, c'est 99 au Japon, 2002 aux éditions du Rocher, et actuellement, c'est en poche chez Point depuis 2013. Et elle a gagné tous les grands prix. Pour celui-là, elle avait gagné le prix Naoki, alors que je ne connaissais pas. Mais c'est vrai que son œuvre, elle a très étendue, et maintenant elle est publiée au Seuil pour ses quatre derniers romans.
Voilà. Bon, après je connais que celui-là, il faudrait que j'en lise d'autres d'elle, c'est pareil.
Et elle est aussi connue comme autrice de romans policiers. Alors celui-là, c'est du policier ou c'est...
Non, c'est parce qu'il y a la disparition d'un gamin, donc il y a un petit peu d'enquête, mais bon, il n'y a pas vraiment de suspense. Non, je dirais pas que c'est policier. Non.
Mais c'est fascinant en fait, c'est plein... Alors merci pour cette liste que je n'imaginais pas, mais et en plus moi en tant que ce qui est là où j'ai un peu honte, c'est qu'en fait toutes ces discussions je les ai parfois eues de manière un peu informelle avec vous, avec les autrices et les auteurs, mais ça m'aide tellement pour comprendre certaines choses sur votre manière d'écrire, ce qui vous intéresse, donc c'est fascinant. Merci
mais bon,
beaucoup.
Alors un dernier, puisque alors c'est toujours là aussi, c'est la disparition d'un enfant, mais il est mort, c'est Tsushima Yuko. Et ça s'appelle Vous, rêve nombreux, toi la lumière. Tsushima Yuko.
Vous, rêve nombreux.
Toi la lumière.
Alors, excuse-moi, je tape d'une seule main. Et c'est chapiqué aussi.
Voilà, donc ça ressemble un petit peu à Disparition, c'est assez triste aussi. Donc c'est la reconstruction, enfin la vie, la survie d'une jeune femme après la mort de son enfant. Voilà, bon, c'est pareil, je l'ai lu il y a longtemps, mais j'en garde vraiment un très très beau souvenir.
Je suis en train de regarder, moi, mon propre rayon Philippe Piquet Japon. Qu'est-ce qui m'aurait particulièrement plu? Alors, il y a beaucoup de classiques de mon côté. Hein. Il y a À pied sur le Tokaido de Jipensha Iku. Alors non, j'ai un roman de Ogawa, mais Ito, le restaurant de l'amour retrouvé, qui m'avait beaucoup marqué. Non, alors, bon, plus à mi-chemin de la littérature générale et de quelque chose d'un peu plus fantastique, un classique qui doit dater des années 70, à mon avis, qui s'appelle La submersion du Japon, de Komatsu. Et ça pourrait te plaire, même si c'est vraiment un récit apocalyptique. C'est bah, tout simplement le niveau de l'eau monte. Et le Japon est effacé de la carte. Et c'est une sorte de récit choral, mais c'est pas du tout traité comme un récit fantastique à l'américaine, spectaculaire. On sent que il y a une très grande dimension de métaphore sur le destin collectif, sur qu'est-ce qui lie une collectivité. C'était une très bonne lecture. Et alors, juste à côté, j'ai mis Babel. Et je suis en train de regarder ce que je peux avoir en japonais chez Babel. Mais non, j'ai Ozawa, en fait. Hein. Oui, j'ai ça. Et non, il y avait un texte que j'avais beaucoup aimé. Mais alors, je ne sais pas s'il est déjà sorti en Babel, mais il était chez Actes Sud, dans leur collection japonaise. C'est le grand passage ou la grande traversée. Qui a alors là par contre je suis un peu intrigué par la traduction mais je vais essayer de la grande traversée j'ai trouvé alors la grande traversée Actes Sud la grande traversée chez Actes Sud, c'est... Excuse-moi, il faut que ça... De Shion, S-H-I-O-N, Miura, M-I-U-R-A. Ça, j'ai trouvé ça remarquable. Je pense que c'était vraiment un très, très grand défi de traduction. Mais c'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme qui intègre une équipe éditoriale, qui travaille sur un grand manuscrit, un grand dictionnaire. Et c'est pendant 20 ans, le travail de rédaction de ce dictionnaire, c'est dit comme ça, ça peut sembler étrange, mais en fait, c'est utilisé comme une sorte de moyen de parler de plein de choses, de l'amour, de la tradition, des intérêts particuliers, c'est-à-dire comment on peut avoir une passion pour quelque chose alors que le reste de l'humanité ne s'y intéresse pas du tout. Et donc, je te le recommande. C'est la première fois dans ces entretiens confinés que je recommande une lecture à un auteur ou une autrice. Mais voilà. Et je vois qu'il existe en numérique. Bon, parce que ces jours-ci, on se voit un peu à lire
j'aime
tout
pas.
Petit peu en
J'aime pas lire des livres numériques.
Non, bah, de toute façon, je pense que la plupart des lecteurs français sont comme toi. C'est-à-dire, pour l'instant, là, le confinement, je pense, amène la plupart des gens à lire ce qu'ils ont déjà chez eux ou à noter ce qu'ils vont aller lire une fois qu'il y aura le retour à la vie. Eh bien, Michel, je te remercie énormément. C'était passionnant. Nous fait beaucoup d'envie de lecture. Je te dis à très bientôt.
Oui, et bien à bientôt. Et puis, bon week-end.
Bon week-end, Michel. Au revoir.
Allez, au revoir.